LBD. La base décide. La base définit.
Salut, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Cette semaine, on va parler du 8 mars, la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Un podcast sera diffusé chaque jour jusqu'au 8 mars. L'histoire de Sud Éducation, celle de Solidaire, c'est une histoire des luttes, mais aussi une histoire des femmes qui se mobilisent. Nous recevons Guillermo Wolf, venu nous parler de son livre.
Bonjour à toutes et à tous. On accueille aujourd'hui dans le podcast de Sud Éducation Guillermo Wolf, qui a écrit un livre aux éditions Sileps, sorti en 2020, collection Les Utopiques, Les Brebis Noires créent les syndicats Sud. Bonjour Guillermo.
Bonjour.
On va parler du livre donc, que tu as écrit, avec un titre un peu énigmatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces Brebis Noires ?
Alors les Brebis Noires, c'est un clin d'œil à l'histoire de la CFDT, d'où proviennent la plupart des militantes et des militants qui ont créé les syndicats Sud. Et dans les années 80, la direction de la CFDT, en plein recentrage, décide de cataloguer un peu une partie de son opposition comme étant des moutons noirs. Et donc moi, mon idée, c'était de m'intéresser à ces moutons noirs et dans ces moutons noirs, de s'intéresser aux femmes. Et donc, de fait, le petit clin d'œil à dire des Brebis Noires.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi tu as choisi ce sujet-là?
Alors en fait, ça vient de deux idées dans mon parcours. D'une part, l'engagement syndical. Quand je suis arrivé à l'université en 2005-2006, je me suis très vite syndiqué à Sud Étudiant, qui aujourd'hui s'appelle Solidaire Étudiant et Étudiante. Et par le biais de cet engagement-là, par le biais de rencontres aussi, je commence à m'intéresser aux questions de féminisme, d'égalité femmes-hommes, etc. Et ça m'a amené, dans mon travail universitaire, à m'intéresser à ces questions-là d'histoire du syndicalisme et du féminisme, des croisements entre les deux. Le fait aussi d'avoir dans mon université Christine Barr, qui est une historienne des féminismes assez réputée et assez très, très présente sur ce terrain-là, ça a facilité aussi le fait de pouvoir choisir ce sujet-là, qui était un sujet qui n'avait jamais été traité, qui est un sujet d'histoire très contemporaine, puisque on va dire que mes sujets, entre guillemets, sont pour la plupart encore en vie, ce qui rend des fois le travail un peu compliqué, mais qui est au moins permet d'avoir une base d'archives et de sources orales très, très présente et très, très active.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le climat social en France est loin de se détendre en cette fin de semaine. Avant les arrêts de travail prévus la semaine prochaine avec le point culminant, la grève de la fonction publique, jeudi 20 octobre, ce sont les infirmières qui, regroupées au sein de leur coordination, en marge des syndicats donc, ont aujourd'hui dit non aux propositions d'augmentation moyenne de 8% faites par le gouvernement et reconduit leur grève. Françoise Joly.
Elles ont dit non aux propositions du ministre de la Santé, Claude Évin. 3 heures plus tard, à 16h30, l'Assemblée générale de la coordination des infirmières votait massivement la reconduction de la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Et si la revalorisation de leur salaire reste au centre du conflit, les infirmières insistent aujourd'hui pour qu'un véritable effort soit fait sur leurs conditions de travail, sur les effectifs et la reconnaissance de leur profession.
Ce que nous réclamons, nous, c'est un statut. C'est un statut, c'est le droit et la reconnaissance de nos compétences.
Ce qu'ont signé les syndicats cette nuit, à votre avis, c'est ridicule.
Je pense qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin dans les négociations avec M. Évin.
Et pour vous, la lutte continue ?
Pour nous, je pense que la lutte continue à partir du moment où statut et formation ne sont toujours pas reconnus.
Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le mouvement des infirmières en 88 et leur slogan « ni bonne, ni conne, ni nonne ». Qu'on pourrait aujourd'hui transcrire par, ni précaire, ni mère, ni auxiliaire à propos de certains métiers dans l'éducation, par exemple, comme les AESH. Et sur le fait qu'il y ait une précarité qui est un peu essentialiste sur les métiers féminins et qui est souvent liée aux soins et à l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ?
En fait, ouais, c'est ça. C'est que dans tout le mouvement les coordinations infirmières des années 80, donc autour de l'année 88, 87-88, il y a effectivement cette revendication ni bonne, ni nonne, ni conne, qui renvoie à la fois à l'aspect historique de ces métiers-là, qui sont très liés à la religion dans certains aspects, donc des nonnes qui vont s'occuper des personnes précaires, etc., Mais c'est aussi, ça renvoie aussi à la condition dans laquelle elles vivent et elles travaillent au quotidien, on va dire, d'infériorisation par rapport à tout un tas de métiers occupés exclusivement, quasiment exclusivement par des hommes. Et donc d'être un peu les faire-valoir des hommes et les petites mains, entre guillemets. Et donc il y a cette revendication de dire, voilà, on exerce un vrai métier qui a une utilité sociale, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur, notamment au niveau des salaires. Et ce combat-là, il va être très fort à ce moment-là. Ça va amener effectivement à des revalorisations de salaire, etc., mais qui restent en fait très très faibles par rapport à l'écart qui existe et qui existait et qui existe toujours aujourd'hui entre ces fonctions-là et des fonctions un peu supérieures. Et c'est un combat qui a débuté à ce moment-là et qui continue à la fois dans le secteur de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs, comme vous dites, dans le secteur de l'éducation, que je connais un petit peu, même si aujourd'hui je suis un peu éloigné, mais effectivement d'une conception qu'on a de ces travaux-là qui sont des travaux féminins dans la société patriarcale dans laquelle on vit, qui sont considérés comme étant inférieurs et donc qui doivent être nécessairement moins bien payés que des boulots à l'image masculine, des boulots de pouvoir, etc., qui font que voilà, on mériterait plus de salaire, etc., alors qu'en fait, celles essentiellement qui font tourner la boutique dans beaucoup, beaucoup de structures, ce sont des femmes et que leur métier est dévalorisé de fait parce que ce sont des métiers féminins. Et c'est un combat qui a commencé là et, comme je disais, qui a été très fort, qui a peut-être perdu un peu en intensité à une période et qui reprend, je trouve, aujourd'hui, notamment aussi tout ce qui est la question du nettoyage, etc., qui pour moi aujourd'hui une question hyper intéressante et avec un travail syndical extrêmement intéressant autour aussi de la sous-traitance, etc., et du coup de comment est-ce qu'on fait pour faire bloc et pour que le syndicalisme puisse se développer sur tout un secteur qui est aujourd'hui éclaté en termes d'entreprise et de donneurs d'ordre, etc. Mais voilà, c'est aussi effectivement toutes ces réflexions sur le travail en lui-même et le travail qu'on effectue pour changer l'image aussi du travail qu'on fait au quotidien, quoi.
Je trouve ça super intéressant de voir à quel point, à la construction des syndicats Sud ou de Solidaires, il y a cette question de mouvement dans des professions qui sont féminisées ou de militantes syndicales. Hein, je pense que t'en parles pas mal dans le bouquin des militantes comme Annie Coupé, par exemple, qui partent... qui sont même exclus de la CFDT, qui sont à l'origine de la création des Suds. Pour nous, c'est vrai que dans Solidaires, c'est quelque chose en termes d'identité syndicale qui est très important, que voilà, nos origines, ce soit dans ces mobilisations de secteurs féminisés, de femmes militantes qui voilà, occupent des positions syndicales importantes de représentation. Comment va être prise en charge spécifiquement la question des femmes dans le syndicat, pour les secteurs que tu as étudiés de Sudrail, Sud Santé Sociaux, Sud Éducation, en termes d'organisation, de revendications?
Eh ben, c'est hyper variable en fonction des syndicats et en fonction de la féminisation aussi, tant du syndicat et que du secteur professionnel. Ce que je remarque, moi, c'est que il n'y a pas forcément une prise en compte spécifique dès le départ. Il y a un peu une idée que les revendications globales touchent aussi les femmes, et de fait, c'est vrai, mais que au départ, on ne développe pas forcément de revendications spécifiques. Ça va plus venir avec le temps et avec le fait que on se rend compte que bah il faut des revendications non pas qui essentialiseraient les femmes en disant voilà il faut des bonnes conditions pour les femmes, pour que les femmes puissent être mères plus facilement, pour que etc. Non, c'est juste une amélioration des conditions de travail qui sont spécifiquement destinées aux femmes mais qui touchent aussi l'ensemble des travailleurs et des travailleuses et donc aussi les hommes. Et après, il va y avoir un développement de revendications qui vont être fluctuantes en fonction des époques, en fonction des secteurs professionnels, mais qui vont amener justement à ça, à cette prise en compte globale de bah, des femmes sont présentes dans notre secteur professionnel, donc il faut qu'on les en compte. On n'est pas c'est des secteurs professionnels uniformes avec les mêmes personnes et les mêmes problématiques pour tout le monde. Donc il y a des syndicats qui vont décider très tôt de mettre en place des commissions femmes à l'intérieur du syndicat pour pouvoir réfléchir et proposer à l'ensemble du syndicat des revendications. C'est le cas notamment à Sud PTT qui historiquement reprend un peu à son compte les commissions femmes qui pouvaient exister à la CFDT, qui était très très active à la CFDT. Dans la santé sociaux, c'est également ça voit également le jour assez rapidement, même si ça a été plus compliqué en fait dans ce syndicat là qui est extrêmement féminisé, parce que du fait de au départ l'omniprésence de femmes à la création du syndicat fait que elles ont pas en tête forcément de créer des outils spécifiques spécifiques, mais en fait elles vont revenir là-dessus parce qu'elles vont se rendre compte que au départ le syndicat est petit, naît et balbutiant, et donc il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux de pouvoir à l'intérieur de syndicats, donc les femmes vont pouvoir avoir leur place assez facilement. Mais à partir du moment où le syndicat va commencer à avoir de la place et de l'importance, va commencer à être reconnu, là il y a des hommes qui vont arriver pour insidieusement prendre un peu le pouvoir, et donc là ils vont être obligés de mettre en place des outils pour dire voilà, c'est aussi notre outil syndical et vous pouvez pas le dominer aussi facilement que ça. À Sudrail, c'est encore une autre problématique parce que là, c'est un syndicat extrêmement majoritairement masculin avec une entreprise extrêmement, où c'est à l'époque extrêmement majoritairement masculine, et donc où ces questions-là sont un peu invisibilisées, et il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aux camarades pour faire avancer les choses, même si c'est pas forcément de la mauvaise volonté des camarades hommes, quoique des fois on peut douter, mais ça arrivera beaucoup, beaucoup plus tardivement. Ça fait que quelques années maintenant qu'il y a une commission femme au sein de la fédération Sudrail, et donc ça montre bien que même si on a les idées, même si sur le papier on marque qu'on est pour l'égalité femmes-hommes, etc., dans le concret c'est un peu plus compliqué, un peu plus lent, et c'est pas toujours aussi simple, quoi.
Parmi les organisations syndicales qui manifesteront demain, le syndicat Sud, solidaire, unitaire, démocratique. Un syndicat qui a le vent en poupe dans le public et le privé. Depuis un an, les sections se multiplient. À l'origine de Sud, l'exclusion de responsables CFDT des PTT de la région Île-de-France. Jean-François Parmentier, Didier Lacharmoise.
La médiatisation et le capital sympathie autour de Sud remontent au mouvement de novembre-décembre 1995. Traumatisme au sein de la CFDT, absence de gain réel pour la CGT et FO, l'ampleur du mouvement décidé par les seuls AG des salariés est plus proche de la philosophie de Sud-Post. Véritable creuset de cette émergence syndicale, un pionnier mis en orbite au cours du conflit des camions jaunes de 1988, quand les premières coordinations se sont opposées aux confédérations.
Il y a des organisations syndicales, mais elles n'écoutent pas la base.
En dénonçant l'institutionnalisation des syndicats classiques, Sud privilégie les réseaux et apporte une assistance au niveau juridique ou de la formation. Un maillage interprofessionnel présent avec les organisations de chômeurs, de droit au logement, des sans-papiers ou de la lutte contre le racisme.
Le mouvement syndical dans son ensemble a besoin de se régénérer. Donc ça passe par des crises. Il y a eu l'éclatement de la FEN avec la création de la FSU. Il y a l'émergence du groupe des 10 avec l'émergence de Sud. Donc tout ça montre qu'à la fois il peut y avoir des crises, mais il y a aussi un peu des éléments de recomposition.
Au nom de ces trois mots, solidaire, unitaire et démocratique, tous les militants préparent la journée du 17 octobre. Un cap au Sud qui n'a pas fini de jeter un froid chez les syndicats voisins.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'année 95, en quoi elle a été fondamentale à la fois pour la création des syndicats Sud et pour les luttes des femmes plus généralement?
L'année 95, effectivement, en 95, on a déjà au moins deux syndicats Sud, donc c'est Sud PTT et Sud Santé Sociaux, pour parler des plus gros. Et le mouvement de grève contre les retraites de décembre 95 va amener la création, du coup l'explosion, entre guillemets, de syndicats Sud, donc que ce soit dans le rail ou dans l'éducation notamment. Et en fait, sur cette même année, on a en novembre 95 une grosse mobilisation pour la défense du droit à l'IVG. Une mobilisation, je pense qu'on n'en a pas connu depuis très très longtemps sur ces questions-là, où il y a à peu près 140 organisations qui se mobilisent, il y a 40 000 personnes qui manifestent à Paris. Et c'est aussi un moment où les syndicalistes qui vont créer les syndicats Sud, ou qui ont déjà créé les syndicats Sud, prennent toute leur place dans cette mobilisation, qui est à la fois une mobilisation féministe, donc d'associations féministes plus traditionnelles, mais aussi de dire le syndicalisme aussi a sa place et a intérêt à défendre les droits des femmes, et notamment le droit à l'accès à l'IVG. Et cette mobilisation va amener à la création du collectif national pour le droit des femmes, où là, il y a des militantes Sud, notamment de Sud PTT, qui vont prendre une place très importante, qui vont être à l'animation de cette structure pendant très nombreuses années, les syndicats vont mettre des moyens humains pour faire vivre ces collectifs. Et donc effectivement il y a un lien, alors qui n'est pas forcément un lien de causalité imbriqué, lié l'un à l'autre très très fort, mais qui marque une émulation en tout cas sur ces questions-là, des réflexions qui font que le mouvement féministe et le mouvement syndical de l'époque sont étroitement liés, et la création des syndicats Sud à ce moment-là est aussi étroitement liée à toutes ces mobilisations, quoi.
À la lecture de ton livre, il y a la question de la non-mixité qui apparaît notamment parce que les fondatrices et fondateurs des différents SUD sont souvent d'anciens et d'anciennes CFDT, et que la CFDT est l'ancienne CFTC, et que dans la CFTC du début 20e, il y a une non-mixité, mais qui n'est pas présente pour les mêmes raisons. Et c'est souvent un sujet assez crispant dans les syndicats, la non-mixité. Tu pourrais nous en parler un peu ou...
Ben ouais, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que moi je lis quand même si le fait que... La CFTC, l'aspect chrétien faisait qu'on ne pouvait pas mélanger les hommes et les femmes parce que les hommes allaient, entre guillemets, salir ou la pureté des femmes, etc. Mais que quand même, au bout d'un moment, assez vite, ces syndicats féminins du début 20e mettent en place un espèce de proto-syndicalisme féministe qui est quand même extrêmement intéressant. Et c'est aussi parfois une source d'extrême tension quand on demande à des syndicats féminins à cette époque-là, de dire « bon, bah voilà, maintenant vous allez rejoindre un syndicat avec des hommes, on va créer un syndicat mixte, etc. » Et là, les femmes, elles vont être à la bagarre pour ne pas rejoindre ces syndicats-là et continuer à garder leur spécificité et leur possibilité de s'exprimer elles-mêmes par elles-mêmes pour elles-mêmes. Après, quand on revient sur la période que moi j'ai étudiée, qui c'est des années 70, 80, 90, il y a effectivement une grosse tension par rapport à la non-mixité. Une non-mixité qui revient en force dans les années 70 avec le mouvement féministe. Et ce qui est assez drôle, enfin, ou pas, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une grosse bataille pour est-ce que les commissions femmes doivent être mixtes ou non mixtes, etc. Qu'il y a des, sur les congrès de fondation, notamment des syndicats sud, c'est des batailles assez importantes pour que, enfin, des hommes se battent pour que les commissions femmes soient mixtes. Les camarades femmes disent elles-mêmes qu'au départ, elles ont un peu lutté là-dessus, puis finalement, elles se sont dit bon, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est de pouvoir créer des commissions femmes et de pouvoir avancer sur ces questions-là. Et donc, la plupart se sont créées en mixité, mais dans les faits, dans la pratique, elles étaient assez vite en non-mixité. Enfin, celle de Sud PTT, par exemple, pendant quelques mois, il y a un homme qui a participé. Je pense, j'ai pas interviewé, mais qu'au bout d'un moment, il se sentait peut-être plus forcément à sa place et qu'un espace d'expression où les femmes sont là pour discuter entre elles, un homme va assez vite, s'il est pas trop con, j'allais dire, mais va vite se sentir pas trop à sa place. Et donc, ça finit par être de fait non-mixte. Et c'est toujours marrant. On voit ça dans le mouvement féministe en général, même dans d'autres mouvements qui peuvent agir en non-mixité, c'est ce besoin, quand on se sent entre guillemets exclu de cet espace, de vouloir y aller, d'avoir le droit d'y aller. Une fois qu'on a le droit d'y aller, eh ben on n'y va pas. Et c'est quand même assez marrant que les hommes ont beaucoup, beaucoup d'espace pour s'exprimer sur les questions féministes, etc. Et que quand on utilise la non-mixité comme un outil, parce que c'est pas une fin en soi, hein, les camarades le disent bien, c'est pas une fin en soi, ils veulent pas créer des syndicats de femmes pour lutter que pour les femmes, etc. C'est juste un outil pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire avancer des revendications pour les femmes, des revendications féministes, etc. Et ben là, il y a un point de tension, et c'est toujours assez, j'allais dire drôle, mais c'est triste aussi des fois de voir que en fait ils peuvent intervenir sur plein de sujets, plein d'endroits, mais que l'endroit où on leur interdit, ils veulent absolument y aller, alors que les endroits où ils peuvent aller, ils y vont pas forcément.
La non-mixité, c'était un des outils. Dans ton livre, tu parles aussi de la parité, il me semble, surtout à Sud PTT, où ça a eu des conséquences importantes sur l'organisation. Tu peux nous en parler rapidement ?
Ben ouais, en fait, dès le départ, en fait, les camarades, c'est assez marrant le cheminement des camarades, parce que quand on suit, par exemple, le parcours d'Annie Coupé, donc qui était militante à la CFDT à partir des années 70, il y a un congrès de la CFDT, si je ne dis pas de bêtises, à Metz en 82, où elles vont en fait s'opposer, donc là, on va dire l'opposition CFDT interne, la gauche syndicale, comme on l'appelait à l'époque, va s'opposer à la notion de parité qui est mise en avant par un certain nombre de figures du syndicalisme de CFDT de l'époque, dont Nicole Nota, qui deviendra par la suite secrétaire générale de la CFDT. Et elle s'y oppose en fait frontalement. Et en fait, quand arrive la création de Sud PTT, moins de 10 ans plus tard, autour de 88-89, là se repose la question, effectivement, de quotas et de dire est-ce qu'il ne faudrait pas réserver des places dans les instances dirigeantes aux femmes. Et donc, elle décide d'y aller et de se battre pour ça. Et donc, elles finissent par l'obtenir. et elles se rendent compte que bah oui, c'est tout à fait profitable et qu'elles réussissent à avoir une bonne représentation et que bah, pendant très longtemps, Sud-PTT a eu une porte-parole femme, Annie Coupé. Ensuite, il y en a d'autres qui sont venus, il y a des hommes. Enfin, ça a tourné et c'était pas exclusivement des femmes ou ensuite exclusivement des hommes, mais que ça a permis en fait de faire tourner les choses et qu'on voit à l'inverse que ce que je disais tout à l'heure à Sud Santé Sociaux où là, il n'y a aucun outil qui a été mis en place au départ en se disant de toute façon, on est une majorité de femmes, donc naturellement, ça va s'équilibrer et ça va être... Et ben en fait, on se rend compte que non. Il faut se donner un cadre, sinon ça marche pas. Moi, j'ai l'exemple du syndicat Sud Santé Sociaux de mon département qui existe, lui, depuis 95. Et depuis 95, ça a toujours été un homme au poste de secrétaire départemental, alors qu'on est sur un taux de féminisation du secteur et un taux de féminisation du syndicat qui est au-delà de 80%. Donc ça questionne sur le fait que bah, voilà, si on ne met pas en place d'outils, malheureusement, naturellement, ça n'existe pas. Il y a des rapports sociaux qui font que les hommes vont accéder plus facilement à ces lieux de pouvoir et à ces positions de pouvoir que des femmes et que malheureusement, il faut, comme outil, encore une fois, en passer par là pour atteindre plus d'égalité.
Merci Guillermo. Ben, puis, merci si ça vous a intéressé, vraiment, n'hésitez pas à lire le livre Les Brebis Noires qui est passionnant. Merci Guillermo.
C'était le 5e podcast LBD de la semaine consacré au 8 mars. Rendez-vous demain avec des conseils de lecture sur cette journée. Et d'ici là... Thank you.